Merci, bonsoir d'être nombreux présents pour cette rencontre. Merci à la librairie Mola de nous accueillir. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir avec nous ce soir Joël Mété, le dernier éditeur pour l'instant du livre qui est sorti l'année dernière, donc peu de temps après le décès de Jean-Pierre. Et voilà, je me disais que cette réunion, ces réunions-là, c'était quand même beaucoup mieux quand il était là pour les organiser lui-même, parce que ça nous facilitait la tâche, parce que ça a été un peu difficile de se retrouver presque un an plus tard. Et l'année dernière, on n'avait pas pu fêter ce livre et on n'avait pas pu en parler ensemble, donc c'était quand même bien de pouvoir le faire. Voilà. Donc ce livre, je l'ai relu, je vais commencer. Alors, nous sommes ici, vous ne nous connaissez peut-être pas tous, Bernard Vouilloux, Progrès Travé, Philippe Mézia, Patrick Lacoste, Jacques Bernard, Maïlène Lafitte est avec nous ici, et donc nous sommes ici donc réunis pour évoquer notre ami. Et ce que j'ai formulé comme étant à la fois l'actualité du livre et puis le futur peut-être de nouvelles publications. Pour ce qui me concerne, je ne vais pas occuper trop de temps parce que je sais que Progrès a bien préparé quelque chose d'un peu conséquent. Non ?
Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai.
Préparé, mais le conséquent, c'est... Ah.
Bon. En tout cas, je vais avant de lui laisser la parole, je vais vous donner un témoignage simplement d'une relecture récente, enfin des derniers jours de ce livre. Les blessures du désir, sous-titré « Pulsion et puissance en jazz », et encore « Esquisse et portrait », puisqu'il y a un autre sous-titre un peu plus bas, qui est « Esquisse et portrait », puisqu'il s'agit dans cette sorte de volume 2 de « L'amour du jazz » paru en 2009. « L'amour du jazz » était paru en 2009. De recenser un certain nombre de musiciens choisis de façon, nous dit-il, entièrement subjective mais nécessaire, comme il le précise lui-même dans les notes liminaires. Soit de longs et beaux portraits de Chet Baker, Miles Davis, Stan Getz, Albert Heider, Abe Lincoln, Sonny Rollins, Von Freeman et Bernard Luba, complétés par une étude sur le Coltrane d'Alain Gerber et suivis d'esquisses diverses portant sur des musiciens actuels et encore très jeunes, Sylvie Courvoisier et Peter Evans, ou plus anciens mais rarement écoutés sous nos climats, Evan Parker, Tim Berne, David S. Ware, sans oublier les esquisses féminines qui portent sur Hélène Merrill, Meredith D'Ambrosio, Jeanne Lee et Shirley Horne. Relire Jean-Pierre Moussaron, ce que je fais constamment bien sûr, en sorte qu'il m'accompagne dans les divers travaux écrits, conférences ou comptes rendus de disques ou de festivals qui font une bonne partie de mon quotidien, c'est faire à chaque fois une expérience qui est une, mais qui peut se décliner en trois moments. Car c'est d'abord éprouver la musique de sa langue, de son verbe, de sa phrase. C'est aussi et ensuite expérimenter l'amour de la musique qui le porte en ses écrits. Et c'est enfin, bien sûr, réarmer, pour reprendre une formule qu'il aimait utiliser, réarmer en quelque sorte l'amour que je lui porte depuis que je le connais et qui se prolonge en cette compagnie. Mais d'abord, l'essentiel, ce qui fonde le reste, ce à quoi tout tient, car sans cette musique des mots, de ces mots, rien ne consisterait, la musique du texte. Comme un redoublement de ce sur quoi il porte, Chet Baker ou Stan Getz, pour prendre seulement deux exemples, il y a chez Jean-Pierre Moussaron comme une manière d'évoquer par la phrase même, sa construction, les sonorités qu'il convoque, quelque chose comme un analogone du style, du trait stylistique qu'il décrit. Dans ces moments, qui sont autant de bonheur d'écriture et donc de lecture, on touche à la pure poésie sans jamais quitter néanmoins l'objet dont on parle. Et c'est ainsi, par métaphore et assonance, que le musicien dont l'œuvre a soutenu le désir de l'écrivain, blessure du désir, est porté à la dignité de la chose et se soutient par là d'être rangé dans la série de ceux qui auront compté dans le domaine de l'art musical. Je note seulement ici que le combat pour la reconnaissance du jazz comme forme musicale pleine et entière dans le domaine des beaux-arts est toujours à recommencer et que la disparition ou la raréfaction des écrits qui lui sont consacrés et qui portent haut cette revendication, par le fond comme par la forme, sont autant de signes que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Alors, au passage, j'en profite pour dire quand même, puisque Joël Météla, que voilà, nous avons eu l'année dernière et cette année encore, aux éditions donc Jazz Impression, Alter Ego, nous avons eu le livre de Jean-Pierre, nous avons eu un très beau livre d'Alain Gerber qui réalise en quelque sorte un vœu que Jean-Pierre avait depuis des années aussi, de faire le dictionnaire des musiciens dont on ne parle pas ou dont on parle jamais assez, enfin le dictionnaire des incompris. Il y a eu un livre de Michel Arsens sur John Coltrane. Plus récemment, Jacques Bernard Hess, qui fut critique de jazz à Jazz Hot et à Jazz Magazine, et qui est décédé il y a deux ou trois ans. Jacques Hess, qui habitait tout près d'ici, qui habitait près de Libourne, nous a laissé un recueil de ses écrits, de ses SOS, paru dans Jazz Magazine dans les années 60 et 70, qui est absolument à lire aussi, qui est plein de vivacité, de verdeur, d'intelligence et de liberté. Et je me disais que ces deux êtres qui ne se connaissaient pas, en fait, puisque je crois qu'ils ne se sont jamais rencontrés, auraient au moins eu ce point ensemble, ce point commun, de ne pas céder devant l'indépendance et la liberté de jugement. Voilà, donc merci à lui de maintenir quand même, parce que les éditeurs ont l'air bien, bien timides par les temps qui courent, de maintenir cette présence du jazz. Et cette présence du jazz illustrée par des gens qui écrivent et qui ne se contentent pas de se faire les relais médiatiques de la diffusion et de la consommation. Cette parenthèse fermée, j'en suis où ? Eh bien, cette musique est soutenue, oui c'est ça, cette musique est soutenue, donc je parlais du jazz, mais causée par et à la fois effet de l'amour qu'il portait à la musique de jazz, à la musique tout court, car il importe peu ici de marquer des distinctions qui, justement, n'ont pas cours, amour dont il est question dans ce livre autant que dans celui qui a précédé, qui portait ce titre, et que Jean-Pierre Moussaron inscrivait comme s'étant inscrit à partir d'un trait, d'une marque, d'une blessure première, d'où le titre de son dernier livre, Blessure et puissance en jazz. Avec cet autre sous-titre qui m'allait droit au cœur, Puissance en jazz, et qui renvoyait à ce qui fut pour moi un ouvrage décisif dans l'intérêt que je décidais de porter au jazz, Puissance du jazz, publié vers le milieu des années 50 par un certain Gérard Legrand, surréaliste dont l'écriture me fascinait et qui a depuis renié cet ouvrage, ce qui fait que plus personne ne le lit, évidemment. Cela dit, l'amour de la musique ne va pas de soi, pas plus que l'amour de n'importe quoi ou de n'importe qui, surtout. Alors, j'avais envisagé, mais je ne le ferai pas parce qu'on n'a pas assez de temps, mais j'avais envisagé de vous faire écouter ici les 4 minutes 12 ou 20 de Vladimir Jankélévitch parlant du prélude chez Chopin, chez Scriabine, et concluant, à la terme d'une péroraison dont il a le secret, concluant sur le fait que l'homme n'aime pas la musique. Alors, je vais essayer simplement de limiter, l'homme n'aime pas la musique. Sous le climat, ça n'existe pas. Il n'y en a aucun. On n'en trouve pas. Bon, voilà. L'homme n'aime pas la musique. Et cette manière d'essentialiser d'une certaine façon la musique comme ne pouvant être au fond l'objet d'aucun amour, parce qu'en tant que telle, on l'aime toujours pour autre chose qu'elle-même. Voilà. On l'aime parce que... Alors, il dit on l'aime par hasard, on l'aime parce qu'il fait beau, parce qu'il fait bon, parce que quelqu'un vous plaît dans l'assistance, mais pour elle-même, jamais. Donc, j'ai trouvé, en relisant le livre de Jean-Pierre, j'ai trouvé une réponse, au fond, à cette question, et au-delà, une réponse à une autre question, beaucoup plus peut-être encore essentielle. Il est question de ça dans le texte consacré à Alain Gerber. Et là, je vais me permettre de vous lire... un tout petit peu longuement quand même, quelques lignes de ce que Jean-Pierre consacrait donc à cette question au fond de la musique et de l'amour qu'on lui porte. J'espère que vous trouverez facilement le lien, parce que là, on va. Mais j'ai une page et demie à vous lire. « Soit enfin, nous dit-il, soit enfin une déception salutaire. » À savoir que l'appréhension de la musique de Coltrane et de toute musique née ne saurait être que de l'ordre du discours. Cela se fonde sur deux propositions distinctes et malgré leur convergence. La première, radicale et désespérante, tient que nous n'entendons jamais la musique qu'à travers des discours. tous ceux qui, nous traversant, nous constituent dans la logosphère, Barthes, ou nous évoluons en tant que par-lettre, Lacan. De sorte que nous ne percevons jamais la musique en tant que telle, proprement telle, dans la propriété d'une pure présence à soi. Question qui a été soulevée par Jean Kelevich dans le passage que j'évoque. Partant, il ne saurait y avoir d'entente et donc de lecture purement phénoménologique de la musique, voire d'entente tout court. Parce que ici, comme ailleurs, quelque chose comme la chose en soi, l'infinie différence du réel avec un grand R sensible, ne s'atteint pas, sinon dans le miroir des concepts ou bien à travers l'imagerie, encore plus illusoire, des fantasmes. Ou pire, cette dernière distinction s'effondre si l'on s'avise que le concept lui-même pourrait bien être qu'un fantasme de vérité, une approche métaphorique simplement commode, dont la valeur se mesure exclusivement à son utilité, plus ou moins grande, dans l'indispensable communication entre les hommes, et non à quelque rapport d'adéquation à la chose elle-même, par principe impossible. Mieux vaut oublier vite un si funeste savoir, comme nous le faisons d'ailleurs tous les jours pour le reste du monde sensible, cet X dont nous prétendons parler, et nous en tenir à la seconde proposition, plus tempérée, mais encore suffisante pour inquiéter nos conforts d'amateurs ou de critiques. Exit Friedrich Nietzsche, ou plus exactement le masque profond et mauvais de sa pensée. On posera alors que la musique, de Coltrane, s'entend certes et qu'elle fait jouir, se jouit bien sûr, mais ne se dit pas. On peut effectivement douter que l'émoi subjectif dû à l'audition musicale soit transmissible tel quel, et l'on sait que la jouissance, impersonnelle et non subjective, n'est discible qu'à travers maintes images et paraphrases détournées. Le seul choix pratique, éthique et politique autant qu'esthétique, reste dès lors celui d'empirer ou de réduire ce mal. Et j'en termine avec cette belle page. On m'accordera que Gerbert œuvre de toutes ses forces au dernier parti, c'est-à-dire d'empirer ou de réduire ce mal. Dès lors, le dernier parti, c'est-à-dire le réduire, dès lors le fait qu'à travers tant de discours, tant de dossiers critiques dont il s'est voulu le patient archiviste et exégète, tant de détours indispensables à son dire, le corps sonore de la musique coltranienne n'est pas toujours continuellement examiné, ce fait importe peu, ou plutôt beaucoup, mais autrement, car le discours de cet auteur est critique, puisant sa force et sa relance d'affronter au peu saisissable, voire au toujours déjà perdu, selon certains, se déploie autour d'un centre interdit, tel, nous apprenait jadis Barthes, la ville de Tokyo, bâtie autour du palais inaccessible de l'empereur. Alors, voilà, cette page, j'allais dire, résonne pour moi par rapport à ce que j'évoquais de Jean Kelevich, et aussi d'une façon très directe par rapport à Kant et par rapport, effectivement, à l'impossibilité d'atteindre la chose en soi, le noumen, dont, effectivement, on doit le supposer à l'origine de nos représentations, mais qui n'est pas accessible en tant que tel, d'une part, les choses, les phénomènes n'étant accessibles qu'à travers les formes a priori de la sensibilité et les catégories de l'entendement. Ce qu'aujourd'hui, le structuralisme a dit de façon plus directe, en disant ben, on atteint en définitive la réalité qu'à travers la structure de langage. Donc, cette façon de répondre, enfin, cette manière de répondre, en disant, de toute façon, effectivement, la musique en elle-même, on ne l'atteint pas et on ne la touche pas et on ne la rencontre pas, mais simplement à travers des discours. Donc là, il y a bien une réponse à cette question et à une autre, peut-être. Cette autre, eh bien, je la relis à... Il m'aura fallu cette relecture pour la redécouvrir, à la méditation de Pascal sur le moi, qu'on titre souvent « Qu'est-ce que le moi ?» et qui est en fait une réflexion pessimiste sur l'amour. Je rappelle simplement cette conclusion dans ce texte célèbre qui est intitulé dans les éditions habituelles, à moins que ça ait changé depuis, parce que je ne me suis pas penché sur les dernières éditions des pensées. Mais qu'est-ce que le moi ? Et dès la troisième ligne, il n'est plus question du tout du moi, mais de celui qui aime quelqu'un. Dit Pascal, à cause de sa beauté, est-ce qu'il l'aime, etc. Non. Et il conclut, j'allais dire de façon pessimiste, cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Le texte de Jean-Pierre répond à sa façon à cette question, et surtout il rejoint l'articulation lacanienne, me semble-t-il, de l'objet A en son extimité, et la façon dont la culture, entendue ici dans son sens d'ensemble des procédés qui transforment l'humain pour le faire être parlant, se construit autour du vide laissé par la perte de la chose. Vous aurez compris que j'aime donc Jean-Pierre Moussaron parce qu'il me ramène, que je le veuille ou pas, à la philosophie. Voilà, merci. Alors, messieurs, je passe la parole à Procré, mais il va de soi, Bernard ou Patrick ou Jacques ou Mayalène, que vous intervenez quand vous voulez, bien sûr.
Oui, alors moi, je vous parlerai d'un Jean-Pierre qui est peut-être pas celui dont on vient d'entendre un peu la pensée. Le Jean-Pierre dont je vais vous parler est pour me souvenir de lui. Je suivrai un plan, le plan que le narrateur de Malone meurt, de Beckett, propose. Alors voici cette page, elle est au début de Malone meurt. J'ai dû réfléchir toute la nuit à mon emploi du temps. Voilà donc le temps qu'il me reste divisé en cinq. En cinq quoi ? Je ne sais pas. Tout se divise en soi-même, je suppose. Si je me remets à vouloir réfléchir, je vais rater mon décès. Je dois dire que cette perspective a quelque chose d'attrayant. Mais je suis averti. Je trouve de l'attrait à tout depuis quelques jours. Revenons aux cinq. Situation présente, trois histoires, inventaire. Voilà. Quelques intermèdes ne sont pas à exclure. C'est un programme. Je ne m'en écarterai que dans la mesure où je ne pourrai faire autrement. C'est décidé. Je sens que je fais une faute énorme, ça ne fait rien. Donc voilà ce texte de début Malone meurt que je vais suivre pratiquement à la lettre, puisque donc mon plan sera le suivant, situation présente, trois histoires, inventaire, et puis quelques intermèdes. Alors, situation présente, chacun de nous a son Jean-Pierre, même Miles Davis. Le mien, celui qui m'a abondamment nourri, est souvent associé dans ma mémoire à cette superbe séquence de l'homme qui tua Liberty Valance, qu'il adorait, où John Wayne se décide enfin pour le spectateur, à intervenir parce que son steak est en jeu. Alors ce qui est en jeu pour moi, dans la situation présente, c'est de lui parler. J'aimerais que depuis quelques recoins de la salle, il m'entende et manifeste par mous et murmures comme il sait faire, son degré d'acquiescement au discours qui le parle. Et pour que tous nous l'entrevoyons, un tant soit peu, je vous propose de commencer en lui donnant la parole. Il s'agit d'un court extrait de la première communication qu'il fit au séminaire du Collège international de philosophie, séminaire dont il était le directeur de programme, le samedi 11 novembre 1989. 11 novembre 1989, nous sommes sous le signe d'une double commémoration. Le titre, je n'invente rien. Le titre remarque sur le rire, le tragique et la mort d'un Malone meurt, de Samuel Beckett. Alors, on va l'entendre, les bruits que vous en y entendrez, si vous êtes attentif à l'intégralité des sons de la bande, sont ceux caractéristiques d'un briquet qui, sans jamais désespérer, tente de raviver la flamme d'un cigare tout en ponctuant régulièrement le discours de son maître. Alors, on va passer peut-être l'extrait. Il fait 6 minutes et quelques, et c'est la fin de l'enregistrement qui provient d'une cassette audio, puisque nous avions enregistré toutes les séances du Collège international sur Bordeaux.
Et ça, personnellement, je ne l'entends que dans le texte de Beckett, et surtout et dans le premier amour et dans Malone, si pas les mêmes précises. On peut dire que, au fond, en même temps, alors oui, ça c'est plus général, mais je veux dire, plus ça parle et plus le silence que semble vouloir meubler. Pour le contenir, le parleur s'entend. Bon, ça c'est déjà. Non, mais voilà ce qui me tient à cœur, personnellement. C'est au fond, c'est ce qui serait pour moi la pointe de cette musique prochaine, toujours qui s'approche, c'est ça. Autrement dit, Malone meurt, parvient à faire résonner à nos oreilles, ou en tout cas aux miennes, pour ne compromettre peut-être personne d'autre dans une expérience douteuse, cette écriture limite, je dirais, ou dans le sillage de la mort, qui ne cesse d'arriver et qui est toujours déjà venu. C'est-à-dire qui est toujours déjà à l'œuvre dans l'œuvre. Bon, pour le redire comme ça. Alors, résonne à nos oreilles. C'était quelque chose, je dirais, implose, un silence qui parvient enfin à faire assez de bruit pour rien. Alors, en deux phrases, il me reste, à tenter de resserrer la trame de ces fils émotifs dans ma lecture, et que ce soit le plus clair possible, le plus clairement dit possible. Donc, sans phrase, justement. On peut penser que le texte de Malone meurt, donc s'il raconte quelque chose, je dirais quelque chose plutôt que rien, raconterait l'histoire, donc sans fait, etc., de la dépropriation du sujet par son entrée, mais je dirais son entrée quasiment double dans l'écriture, puisque en quelque sorte, il y est représenté comme personnage, et il y joue, enfin il s'épuise, il s'y perd comme auteur, donc il est représenté comme personnage, mais comme auteur qui représente. Représentant. C'est ça, parce que, etc. Et donc, le désœuvrement qui la constitue. Bon, ça, c'est ma première phrase. Là, je vais relier tout ce que j'ai. Mais du coup, que ce faisant, tout à la fois, je dirais, il accomplit le tragique moderne, au sens de terme. Donc, je le dis tout de suite, d'une errance sous l'impensable. Et le détourne, en même temps. Sinon, le dépasse. Je n'aime pas plus cette notion de dépassement, le détourne. Plutôt, le détourne, dans sa spécificité d'écriture, qui fait qu'on ne confondra jamais une demi-page de Beckett avec quel que ce soit dans son texte. C'est pas possible. En libérant pour nous la honte, jusque dans, je voudrais dire, la déploration joyeuse et rieuse du deuil, mise en musique dans les mots, c'est ça que je voudrais. Alors, il me resterait, nous y sommes, une conclusion. Bien sûr, je vais dire, je ne vais pas conclure. C'est pas pour donner dans le thème la bêtise conclure tout ça, non, non. Mais c'est parce que je suis amené à m'arrêter ici, c'est-à-dire c'est à mes limites, aux limites de mon discours. Bon. Et combien je préfère m'arrêter moi qu'au lieu de tenter d'arrêter, vous voyez, le devenir multiple de ce texte en le fichant, justement, c'est ma conclusion. Non, je voudrais plutôt, pour conclure, tirer une moralité, si je puis dire, au sens le plus ancien du terme, au sens des hommes. De la dernière citation de Beckett que je ferai ici et qui n'est pas du texte ni même de savon, mais qui est de son théâtre. Elle est prise dans une pièce de théâtre, l'une de celles qui personnellement me paraît la plus forte. Donc c'est fin de partie. Enfin, je veux dire souvent, je le vois quand je fais des cours, enfin, je vais en faire, je n'ai jamais pu faire cours sur Beckett au passage. C'est quand même, sauf en littérature actuelle où je choisissais. Enfin, c'est quand même étonnant dans un premier temps qu'on est depuis 20 ans. C'est fou, je n'ai jamais pu pouvoir mettre un programme officiel qui ne soit pas une UV à option qu'on choisit soi-même. Alors cette année par des bagarres étonnantes, j'ai demandé que ce soit en théâtre, non, quand même ça me tient à dire, je le dis d'ailleurs là-bas. Et bien évidemment là où je demandais fin de partie, on m'a foutu la table en godot, bien sûr. Je n'ai rien contre la table en godot, c'est aussi pénible que pour la plupart des gens, Flaubert c'est un homme varié, vous voyez, c'est toujours voilà. Bref. Alors fin de partie. Je me ferai le plaisir, et j'espère, je crois, un peu votre bonheur de faire une toute petite séquence. Parce que un vrai dialogue entre Rame et Clove, là, vous les voyez tous les deux, là, le maître, etc. Puis alors, n'oublions pas, c'est quand même très beau, vous savez, il y a donc j'ai eu la chance de voir la mise en scène de Blain à l'époque. Il y a donc les parents dans la poubelle, de côté, ça, qui servent de temps en temps pour dire ma bouillie, donc il n'y en a plus, ils referment, donc c'est Neg and Hay, donc voilà. Alors voilà, petit dialogue. Donc Clove, avec angoisse, se grattant. J'ai une puce. Ah, une puce, il y a encore des puces. Clove se gratte, à moins que ce ne soit un morpion. Âme très inquiet. Mais à partir de là, l'humanité pourrait se reconstituer. Attrape-la, pour l'amour du ciel. Clove, je vais chercher la poudre. Il sort. Âme, une puce. C'est épouvantable. Quelle journée. Entre Clove, un carton verseur à la main. Je suis de retour à l'insecticide. Âme, flanque luant, plein la lampe. Et la beauté, en même temps, d'imaginer la lampe d'une puce. Alors, à partir de cette espèce de dernière dérisoire drôlerie superbe, je dirais que j'ai évidemment tenté de montrer comment le texte beckettien nous enflanque plein la lampe, au point qu'il devrait bien finir un jour par nous éclairer sur nous-mêmes. Et puis peut-être la moralité que j'aimerais tirer, que j'attire pour moi, qui s'ensuit, elle dit simplement que donc nous les humains, les parlettes, nous sommes toujours, et sommes pour longtemps, les puces de Beckett.
Donc voilà, vous venez d'entendre Jean-Pierre. Il est vraiment, c'est le Jean-Pierre que j'ai connu à l'université, au-delà de toute sa pensée, de toutes ses réflexions, une espèce de présence comme ça, de fortement. Et de ce qu'il vient de nous dire, et en deçà de la conclusion de sa lecture singulière de ce texte de Beckett, puisque c'est la fin de sa conférence, on peut facilement repérer sa démarche de lecteur épris du texte pluriel en général. Car c'est ainsi qu'il se désigne lui-même dans Itinéraire. Donc, lecteur épris du texte pluriel en général. Alors, Itinéraire, qui est un petit texte autobiographique, enfin, qui commence comme une autobiographie et qui s'achève par une autographie, comme une autographie. Et que vous avez peut-être pu lire, puisqu'il était attaché au site de chez Mola, sur remu.net. Alors, on a également entendu les petites digressions en rupture de ton, de vocabulaire. Elles concernaient son rapport à l'université, aux auteurs et aux interlocuteurs. Mon plaisir, votre bonheur. Quant à ce qui s'entendait du corps parlant de ce par-lettre, toujours Lacan, c'est l'enthousiasme qui le saisit et colonise son dire à en faire oublier ce pourquoi, en toute logique, cet autre texte de Beckett est convoqué là. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il est tellement pris par ses puces qu'on en oublie que c'est une conclusion ou une forme d'arrêt de sa conférence. Et puis, toujours le briquet, on imagine de la main à la bouche en permanence. Et puis, quand il parle de la fac, quand même, quelques coups sur le bureau. Qui est ponctué. Alors, ce qui me touche et que j'entends dans cette séquence sonore, c'est une analyse rigoureuse, des digressions et une passion. Et c'est très justement le Jean-Pierre, joyeux et généreux, qui fut mon enseignant à Bordeaux 3. Alors, à Bordeaux 3, en 67-68, je suis étudiant en deuxième année de lettres modernes. Jean-Pierre vient d'être nouvellement nommé sur son premier poste. Quelques deux ou trois signes avaient précédé notre rencontre. Premier signe, j'avais eu à Montaigne comme prof de philo Philippe Lacoulabarthe, l'ami que l'on sait de Jean-Pierre. Je ne le suis que plus tard, bien plus tard. Deuxième signe, en première année, M. Saint-Giron, excellent enseignant, mais classique, m'avait rattrapé à un détour de couloir, parce que je fuyais un petit peu les exposés, et entrepris pour que je présente un exposé sur l'éducation sentimentale. Or, Jean-Pierre, c'était Flaubert. Alors, là, je vais me permettre un petit intermède, puisque le narrateur de Malone me l'autorise. Chaque fois qu'il adoptait un texte, donc Jean-Pierre, il en devenait l'auteur, le ton que nous les approprions nous-mêmes. C'est ce que je revise en attendant sa lecture des puces et morpions de Beckett. Il est Beckett écrivant ce texte. Sous nos yeux captifs, il devenait Céline, Borges, Laurie et le Consul, Chandler et Marlowe, Hammett et Sam Spade, et le surréalisme lorsqu'il nous parlait de ou nous lisait des pages du Demain joueur de Blanchot. Parfois, ça ne fonctionnait pas. Comme pour les contrebandiers de Moonfleet ou Chet Baker. Leur charge suggestive était bien trop puissante pour nous pour que nous adoptions ces objets. Nous sentions confusément qu'ils nous auraient privés de notre propre cheminement intérieur. Jean-Pierre nous promettait qu'un jour nous pleurerions devant de telles merveilles. Il voyait juste, après avoir assisté en direct à un concert de Chet émouvant et de beauté, et après avoir vu et revu les contrebandiers, leur place est presque magique au sens de Breton donne à ce terme. Je reviens à M. Saint-Giron. Apprenant que Jean-Pierre était mon professeur de deuxième année, il me dit à peu près ceci. C'est un excellent professeur. Et il a ajouté, mais il est un peu jeune et il faudra qu'il prenne du recul par rapport à sa formation et son goût pour la philologie. Bien vu, bien dit. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce passage du texte que Jean-Pierre a consacré à Jacques Derrida. Lisant Feu la cendre, il y traque ce qu'il nomme son chant général, référence à Pablo Neruda, son cante rondo, référence à García Lorca, cette voix purement idiomatique à laquelle il faudrait pouvoir prêter la troisième oreille, dit-il, revendiquée par Nietzsche. Et il se livre alors à une analyse au microscope dont voici deux extraits. La page entière est absolument extraordinaire, mais là, je prends deux des phrases. Il analyse ailleurs. Dans les deux phrases centrales d'un paragraphe qui donne le « la » de la cendre, une ronde de « i » ténue, mélodie persistante s'insinue dans une suite de sifflantes produisant le souffle et le son de la dissipation dont le signifié est ainsi réverbéré par le signifiant. Et suit la phrase de Derrida. Ou encore, autre paragraphe, « la » concrétisé par l'allitération compacte de labiales et dentales, la solidité affirmée s'incise dans la seconde phrase, puis se défait dans la première partie de celle-ci, dans une tresse de sifflantes alliées à l'aigu faux-file du « i ». Et suit la phrase de Derrida. Alors, en lisant ces choses, ces textes, considère comme des analyses absolument fascinantes, qui auraient sûrement fait perdre les deux oreilles, sinon foudroyé, ce brave monsieur Saint-Girons. Mais pour revenir à mai 68, c'est autour de mai 68 que nous avons vraiment noué nos vies. Voici ce que dit Jean-Pierre de l'événement 68, en 2007, donc bien après, il n'y a pas si longtemps que cela. Je fus entraîné par mai 68 à une marginalité certaine dans l'université officielle, ainsi que réveillé d'une somnolence effectivement dogmatique. Ce fut là ma première chance, si l'on en croit Stendhal, qui écrivait à peu près « Heureux, celui pour qui le métier se confond avec la passion ». Puis il ajoute « La seconde aura été de pouvoir persévérer dans la marginalité, en la généralisant à travers d'autres occupations ». Cette marginalité, c'est pour une part, celle dont il nous a parlé dans cette parenthèse sur Godot ou fin de partie. Jean-Pierre fait donc partie de quelques rares qui, de 68, n'en sont pas revenus, se sont laissés détourner du prévisible et se sont ouverts à l'improbable. Là, je reprends un terme de Bernard Stiegler sur l'improbable. Involontairement, ajoute-t-il, je me suis peu à peu transformé dans mon travail d'une triple manière. En devenant de jeune universitaire spécialisé dans Flaubert et sa suite, un lecteur épris du texte pluriel en général, en évoluant de l'enseignant que je suis toujours vers l'écrivain que je cherche à être, en transformant enfin la quête du chercheur en errance de corsaire. C'est toujours dans ce superbe texte qui s'intitule Itinéraire. Alors, maintenant j'en arrive aux fameuses trois histoires du plan de Malone. Alors, ce à quoi Jean-Pierre nous a initié par sa pratique d'enseignant peut se classer ainsi. Comment lire, comment écrire, mais sans compter. Première histoire, comment lire, écouter, regarder, etc. Alors, lire, c'est entendre le pluriel des textes dans leur moindre bruissement, dans leur feuilleté. Et c'est avec l'oreille de Vladimir et Estragon, de En attendant Godot, Beckett encore, je vous lis le passage. Estragon, toutes les voix mortes, Vladimir, ça fait un bruit d'ailes, Estragon, de feuilles, Vladimir, de sable, Estragon, de feuilles, silence, Vladimir, elles parlent toutes en même temps, Estragon, chacune à part soi, silence, Vladimir, plutôt, elle chuchote, elle murmure, elle bruisse, elle murmure, silence. Que disent-elles? Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elles en parlent. Il ne leur suffit pas d'être mortes. Ce n'est pas assez. Silence. Ça fait comme un bruit de plumes, de feuilles, de cendres, de feuilles. Long silence. Alors, ces quelques courtes répliques que Jean-Pierre a placées à la fin de son étude d'Derrida, un philosophe calligramme, me semblent donner une idée parfaite de ce premier geste de lire auquel il nous a initiés. L'autre geste du lire, c'est se laisser affecter par ses voix qu'entendent d'Estragon et Vladimir aussi. Dans Itinéraire, Jean-Pierre parle de soutenir l'impact de ce qui m'affecte. Comme y autorise Malone, j'ouvre ici un nouvel intermède. Nous avions entrepris, Jean-Pierre et moi, un écrit commun sur le piano solo de Paul Blais autour de l'album Tears. C'était pour Futur Outre-mer, revue dont Jacques Bernard était l'initiateur, puis pour Jazz Magazine. Je me souviens de nos émerveillements lorsqu'après une multitude d'écoutes, nous percevions ici, alors je reprends les termes du texte que nous avions écrit, ici les effets de mer de la main droite et là les effets de terre à la main gauche. L'une qui effilait l'aigu comme pour une liquidation, une perte dans la totalité, l'autre à l'ultra gauche ou l'ultra grave qui s'endurcissait et qui paralysait un temps le mouvement. Nouvelle perte de la totalité. Donc comme une sorte de double échappée hors des limites du clavier. Et nous convoquions Baudelaire pour y retrouver ce bel alexandrin. La musique souvent me prend comme une mère. Et quelques fragments de Nietzsche pour lui faire dire du toucher de Paul Blais que sa force avait la douceur. Ailleurs, soupçonnant quelque amorce de mélodie vite délaissée par Paul Blais, nous nous livrions au plaisir de ce murmure de l'histoire jazzique et nous écoutions ce que nous nommions le silence du silence de Paul Blais, saisi par le plaisir de l'ancien, s'infiltrant dans le nouveau. Envahis par toutes ces sensations, nous imaginions un corps qui n'était ni le nôtre, spectateur, ni celui réel du musicien, toute identification étant un leurre. Entre deux, nous inventions un corps métamorphosé par le désir de musique et qui allait ballant de l'un à l'autre, s'y approchant indéfiniment, asymptotiquement. Vous aurez compris combien le rapport de Jean-Pierre aux œuvres, au lire, écouter, regarder, relier, brancher, était avant tout une question de joie contagieuse en diable. Fin de l'intermède. Lire, c'était aussi partager avec l'autre, l'ami. Sans relâche, Jean-Pierre s'est, de texte en texte, fabriqué un manteau d'amis. Après avoir débusqué un effet littéralement diabolique dans « Shot Corridor » de Samuel Fuller, il écrit « Le diable incarne le pluriel contre l'un parce qu'il est celui qui sépare. Effet diabole contre effet symbole. » C'est moi qui rajoute « Effet diabole contre effet symbole », enfin, lui en a parlé aussi. Dans son introduction à une conférence de Philippe Lacoulabarthe pour le Collège international de philosophie, qualifiant l'écriture de cet ami de « nomade et diabolique », il précise « œuvre plurielle qui lutte contre une unification de propos et d'enjeux quand on perpétrait le discours philosophique traditionnel. Dans la Bible, le démon se présente dans ces termes « mon nom est Légion ». Soit le mal radical pour toute perspective monothéiste inséparable de son devenir intolérance et fanatisme. Si bien qu'on ne saurait faire lien sur l'un, le Dieu amour d'amour, mais sur le multiple. Nous ne sommes pas là pour nous aimer, donc nous haïr, mais pour nous affecter les uns les autres, ce qui nous sépare faisant lien. Et là, je renvoie aux analyses de Blanchot sur l'amitié. Dès son premier livre, Feu le Free, chaque texte recueilli à son destinataire. Philippe Méziat, Jacques Bernard, moi-même, Alain Gerbert, Philippe Carl, Jean-Louis Comolli, Francis Marmande, Philippe Lacoulabarthe, Jacques Derrida, Michel Delis. Quand je dis que chaque texte a son destinataire, c'est qu'il n'y a rien d'interchangeable, car l'amitié est toujours singulière. On repart de rien avec chacun. Dans ses écrits, le texte, le musicien et l'ami constituent comme une pyramide au cœur de laquelle, mu par le don, Jean-Pierre invente ou perfectionne patiemment ses outils d'analyse. Le texte qui m'est dédié, l'aube de Braxton, ou le pluriel du solo, m'est comme un fragment de seconde peau. Et pour faire court, en restant à la surface, pourquoi peau, la date de ce double album en solo 1968. La polysémie du titre du texte, l'aube de Braxton ou le pluriel du solo. Les sous-titres, 1. Le musicien éclaté, 2. Le texte ouvert, 3. Du son libéré à la voix active. La citation de Maïakovski concernant la poésie, de nos jours, il faut avec un casse-tête taillé dans le crâne du monde. Les circonstances même dans lesquelles Braxton enregistra cette musique. Il était minuit et j'étais complètement déprimé. J'ai pris mon magnétophone, je pensais à me tuer. Je me suis dit, non, je ne vais pas me tuer, je vais faire un peu de musique. Si les puces avaient des puces, à leur tour, je me sentirai moi-même comme une des puces de Jean-Pierre, car lui aussi m'en a filé plein la lampe. Alors, deuxième histoire, comment écrire et comment écrire sur les Beaux-Arts? Alors, écrire, c'est d'abord émietter le tout, comme il le dira à propos de son analyse du texte de Michel de Guy. Écrire, c'est aussi tramer, tisser des liens dans l'œuvre, entre les œuvres, entre les divers domaines de création. Écrire, c'est ensuite tenter d'épuiser le texte dans son hétérogénéité multiple, dans sa radicale hétérogénéité, dans sa radicale hétérodoxie. Écrire, c'est enfin traverser l'écriture du texte pour mettre à jour ce qui l'excède. Et à propos de Bouvard et Pécuchet, il écrit « La traversée romanesque du savoir et derrière le désir de copie de Bouvard et Pécuchet, peut-être peut-on dire projet d'écriture, de vie, d'amour, menés au bord de l'insensé, par-delà optimisme et pessimisme, par-delà bien et mal. » Et petite incise personnelle, mon premier projet de mémoire à l'université, c'était Nerval, la traversée de l'écriture et son reste. Son reste, ce qui excède, bon, pour dire qu'on ne doutait de rien. Ça deviendra après une mémoire sur texte et écriture chez Raymond Roussel, puisqu'un soir, on a vu débarquer Jean-Pierre dans notre presque tout dit de la rue La Fontaine, avec les œuvres complètes chez Pauvert de Roussel. Et temps, vous lirez ça. Voilà, ben, on les a lus. Et puis, il nous a mis en contact avec Genet d'abord et Pitot de Roff, et nous avons fait le mémoire là-dessus. Je dis nous parce que c'était avec un ami aussi qui, avec lequel nous travaillions beaucoup ensemble à l'époque. Troisième histoire. Donc, de ce petit plan suggéré. Mais se lire et écrire se fait sans compter. Partout où une forme d'expérience s'allie à une forme d'expression inextricablement, comme nous dit Genette, la parole est sans fin, le texte est infini, les signes s'affolent et le discours nous mène au bord de l'insensé, là où nous sommes confrontés à l'impossible rapport fiction-réel. Là, Jean-Pierre, lorsqu'il en parle, fait une référence à Badiou. Ce que nous donne à entendre tous les écrits de Jean-Pierre. Alors, nous voici rendus à l'inventaire. En trois ou quatre petites touches au sens du pêcheur, au bord de l'eau avec sa ligne. Première touche, il y a peu, je lisais « L'enfant metteur en scène » de Jacques Rancière. Et je trouve une étude qui fait le lien entre les contrebandiers de Moonfleet et Flaubert. Me voilà redevenu étudiant de Jean-Pierre. Deuxième touche, dans un passage de la nouvelle « La veille et le sommeil », La veille, le sommeil de Fitzgerald. Fitzgerald raconte pourquoi, à cause d'une souris qui eut l'inconvenance majeure de commencer à le dévorer dans son sommeil, encore vivant, donc, n'a jamais pu dormir sans un chien ou un chat dans sa chambre. Moi, à cause d'une puce de Beckett, je ne peux jamais dormir sans une pile disproportionnée de livres aux côtés du lit. Et au passage, si vous avez en tête, ou si vous n'avez pas lu cette nouvelle de Fitzgerald, il raconte comment les insomnies lui sont venues. Et il y a un épisode de combat avec un moustique, et il dit bien un moustique au singulier, qui est une anthologie qui est vraiment digne des plus grands burlesques. On imagine Buster Keaton ou je ne sais qui, aux prises avec ce moustique. C'est absolument fabuleux. Ça fait deux ou trois pages, mais c'est splendide. Troisième touche, je terminerai en titillant cet aphorisme de René Char, que Jean-Pierre aimait beaucoup aussi, qu'il a parfois utilisé, « l'éclair me dure ». Alors, il me manque une dédicace peut-être, et j'emprunterai celle de son dernier livre, L'amour du jazz, où il écrit, lorsqu'il nous l'a offert, avec toute ma vieille et inoxydable affection. Nance lui fait remarquer que c'est la seule fois où le mot amitié ne figure pas dans une de ses dédicaces. Et je crois savoir pourquoi. Mais trouverons-nous le temps de vous en expliquer ? Peut-être.
Bien, merci beaucoup, Progrès. Patrick, Bernard, Jacques.
Jacques ou...
Marie-Hélène. Jacques interviendra en dernier. Il l'annonce. Il l'annonce. Donc, si vous voulez entendre l'intervention de Jacques, il faut rester. Voilà. Très bien.
Comme on ne saurait conclure, j'ajouterai une chose. Je crois, je soupçonne Jean-Pierre de ne jamais avoir eu qu'un seul amour en littérature. C'est Félicité. Je me souviens, la façon dont il parlait de Félicité, c'était son seul. Et après Félicité, il ne pouvait plus aimer personne d'autre en littérature. Bien sûr.
Merci.
Voilà, encore.
Bon, moi, je n'ai rien préparé, je n'ai que de très bons souvenirs de Jean-Pierre, donc je reconnais évidemment beaucoup de choses dans ce qui a été dit, y compris dans des situations que moi je n'ai pas connues, je n'étais pas étudiant en lettres, j'ai entendu parler de son enseignement à l'époque. Mais je l'ai connu plus tard. Je suis très heureux d'avoir pu, par son intermédiaire, rencontrer beaucoup de gens qui sont ici. C'était en outre un agent de liaison, un passeur, un transmetteur, c'est-à-dire qu'il faisait partager sa passion et sa passion de connaître aussi les individus, c'est-à-dire qu'il avait pas seulement un rapport à l'abstraction, mais il avait ce rapport à la vie que l'on trouve dans ses écrits. Et en particulier, je dois dire que je n'avais pas lu Les blessures du désir parce que je l'avais reçu au moment de sa mort et que je l'avais juste feuilleté. Je l'avais feuilleté parce que j'ai des rapports très difficiles avec la musique. Je ne sais pas, ce n'est pas le moment d'en parler parce que ça pourrait lancer un débat à l'infini par rapport à ce qui a été dit, mais simplement, je crois que pour dire les choses un peu rapidement, je suis un idiot musical au sens où Clément Rosset, par exemple, dans son traité de l'idiotie, qui parle du réel et de l'idiotie, raconte précisément, voilà quelqu'un qui par exemple parle très bien de la musique sans parler de la musique, Rosset. Or, je dirais, Jean-Pierre Moussaron, c'est un peu le contraire, parce qu'il parle de la musique en parlant de la musique. Et c'est une rareté finalement. Parce que la remarque de Yankelevitch que tu citais tout à l'heure, elle me paraît assez juste au sens où c'est peut-être la seule chose qui nous donne un rapport au réel, qui nous échappe sans cesse, qui ne se duplique pas, qui est dans l'instant, qui est à la fois dans la fuite, dans l'échappement, dans le moment et dans son évanouissement, et quelque chose donc qui renforce le réflexe idiotique, je dirais, pour paraphraser un peu, enfin sortir de ce terme idiot qui me plaît bien d'ailleurs. Parce que, au sens où il est en rapport avec la singularité, mais aussi avec le pluriel, il est avec la singularité absolue, l'idiome, l'idiotisme, l'idiopathie, l'idiosyncrasie, enfin tout ce qu'on voudra. Et justement, de la manière dont Jean-Pierre arrive à parler de la vie, parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué en lisant finalement ce livre, puisque j'ai pu me décider à le lire, c'est la façon dont, au fond, il parle de la vie au travers des personnages, au travers des interviews des personnages. Il y a un superbe, tiens, j'utilise un mot de Jean-Pierre, absolument superbe. Bon, texte sur Miles Davis et son utilisation de l'interview de Miles sur le rapport au temps, c'est une ouverture extraordinaire. Et il parle de la vie tout en parlant de la musique, mais comme il pouvait parler sans cesse de la vie, en parlant de n'importe quoi finalement, hein, de la vie et évidemment... De ce que la vie concerne, c'est-à-dire sa disparition aussi. Donc, j'étais très ému d'entendre à nouveau Jean-Pierre. Je me souviens de cette séance inaugurale du collège, puisque j'y ai assisté. Je me souviens de très bons moments du collège, puis de très bons moments, évidemment, de discussion avec Jean-Pierre et avec... beaucoup d'entre vous, et je dois dire que je dois avouer que je n'aimais rien tant que contredire Jean-Pierre, c'est-à-dire le pousser dans quelque chose où il devenait absolument excessif. C'est-à-dire qu'il était, il avait certes un rapport à l'excès assez naturel, mais le pousser dans une contradiction était un plaisir extrême. Je pense qu'il s'en rendait tout à fait compte. Hein, c'est-à-dire, c'est pas du tout une sournoiserie entre nous, mais je me souviens de moments très agréables et très intéressants, où d'ailleurs. Pour peu qu'on n'en reste pas justement à l'aspect dialectique, théâtralisé ou dramatisé, c'était là que des idées pouvaient surgir. C'est-à-dire que justement, là, en lisant, non, moi je trouve pas ça très intéressant. Notamment, je me souviens de son emballement pour les films gore dans les derniers temps, et je dois dire que j'ai passé des moments assez hilarants parce que le battre en brèche sur les films gore donnait lieu à des dithyrambes absolument inattendues, impensables. Et bon, parce qu'il était capable aussi de penser, d'utiliser son talent et sa force à tenter de faire aimer ça. Bon. Voilà. Et donc je suis très... J'ai été très touché par le témoignage de Progrès sur son rapport maître-élève, qui s'est transformé, qui est devenu un rapport d'amitié, d'échange. Et je pense que très rares sont les gens qui, justement, j'en ai rencontré très peu, pour ma part, mais je fais un peu un travail bizarre. Donc, c'est pas très étonnant que je n'ai pas toujours des rencontres extrêmement exemplaires en tête, mais ce don particulier, cette capacité particulière, singulière et plurielle à la fois, pour rester dans le langage de Moussaron, de justement à la fois transmettre, admettre, invité et finalement pouvoir être dans une autre relation parce que il y a quelque chose qui se poursuit, il y a quelque chose qui peut s'engager au-delà de la simple sollicitation ou au-delà de la simple émulation. J'étais particulièrement curieux tout à l'heure, parce que je pense que M. Saint-Giron, dont tu parlais, a été mon prof à Montaigne.
Oui, il a été avant de...
Voilà, était prof de français, latin, grec à Montaigne.
C'est un ami de Clède, qui était prof d'espagnol.
Voilà.
Et c'est Clède qui avait parlé de moi à Saint-Giron, parce qu'il m'avait surpris. C'était mon prof d'espagnol. Il m'avait surpris au fond de la classe, au lieu de suivre le cours d'espagnol, parce que j'étais fils d'espagnol, donc j'y apprenais pas grand-chose. J'étais en train de lire les 3 essais sur la sexualité de Freud.
Oui.
Alors ça l'avait tellement sidéré qu'il n'avait rien dit et il m'avait laissé continuer. Et après, comme il connaissait Saint-Giron, si j'ai un genre qui m'a dit, ah, Monsieur Clède m'a parlé de vous. Oui. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu un lien aussi entre Monsieur Clède, prof d'espagnol à Montaigne, Saint-Giron que j'ai eu en première année à la fac, et puis après Saint-Giron. Je ne sais pas comment il connaissait Jean-Pierre, mais enfin, apparemment, ils avaient causé ensemble. Et voilà. Pour lui, c'était, il faut que ça s'agisse, ce côté études phonétiques, etc. Le texte, c'est pas tout à fait ça. Mais c'était quelqu'un d'extraordinaire aussi, Saint-Giron. C'est quelqu'un qui avait découvert un Goya, un petit Goya, aux puces, encore les puces, du temps où il y avait les puces à Mériadec. Il avait reconnu que c'était un Goya, il l'a fait expertiser. Et c'était effectivement un Goya de la période où Goya était sur Bordeaux. Et il l'a offert au musée de Bordeaux. C'est quand même assez rare, quelqu'un qui trouve un Goya et qui va l'offrir gratuitement au musée. Oui. Ça, c'était Saint-Giron. C'était quelqu'un d'une générosité absolue qui nous, aussi, pareil, nous accueillait chez lui, sauf qu'il était plutôt côté Mauriac. Et... voilà, ça aurait pu prendre autant qu'avec Jean-Pierre, peut-être, oui, si oui. Nous-mêmes avions été
un de temps ce soit peu mauriacien. Voilà, bon, moi, j'ai rien de plus à ajouter, sinon rappeler ma gratitude envers Jean-Pierre Moussaron, qui a été quelqu'un de très intéressant à connaître et à. Avec qui j'ai partagé des moments de vie.
Bien, moi je suis dans le même cas que Patrick. Je n'ai rien préparé. Je dirais que je suis peut-être un peu dans la disposition des patients qui viennent le voir. C'est-à-dire que je ne savais pas trop bien comment la chose allait se passer. Nous n'avons pas reçu d'instruction, tu as été extrêmement libéral. Et j'en profite d'ailleurs pour te remercier d'avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion amicale. Alors, à ce sujet-là, parce que, en fait, nous sommes dans l'implicite depuis le début, il faudrait peut-être rappeler pourquoi nous quatre, là, nous sommes là derrière le bureau, et pourquoi... nous entretenons une connivence particulière avec Jacques dans la salle, Mayalène également. Bien, c'est parce que le séminaire s'est reconstitué. Je ne sais pas si tous ceux qui sont là ce soir ont participé à ces séances, le séminaire du Collège international de philosophie que Jean-Pierre a organisé en tant que responsable de l'antenne bordelaise du CIF. Entre 1989 et 1995, hein, ce qui ne nous rajeunit pas. Si je compte bien, 6 des 9 membres, en comptant Jean-Pierre évidemment, du séminaire de ces années-là sont présents ce soir. Et c'est aussi avec une très grande émotion que j'ai... écouter ce fragment d'une intervention de Jean-Pierre, la première donc, celle qui ouvrait ce séminaire de six années, un Jean-Pierre en grande forme. Il faut bien dire que Jean-Pierre, des dernières années, n'avait plus cette voix-là, n'avait plus cette énergéia, ce thumos. Un Jean-Pierre en très très grande forme, donc, comme on peut le dire d'un instrumentiste, c'est absolument saisissant la manière dont il scande son texte, une scansion, une pulsation que l'on retrouve en le lisant. C'est une expérience vraiment très très étrange et émouvante, parce que je ne savais même pas que les séances avaient été enregistrées, je ne savais pas que tu avais toutes les bandes.
J'ai les moyens de faire.
C'est la première bande pour rester dans Beckett. C'est la première bande. Alors, je voulais faire une annonce qui a trait...
L'enregistreur était sur la table et tout le monde savait que j'enregistrais.
Oui, mais...
T'as dû oublier.
Ah oui, oui, j'ai oublié.
On ne savait pas qu'on serait exposé au chantage.
Ça, c'est le risque.
Oui, j'avais prévu, et je vais le faire, de parler de l'une des, je crois bien, dernières interventions publiques de Jean-Pierre, ici à Bordeaux. C'était à l'occasion du colloque de mars 2011 autour de l'œuvre de Guy et en présence de Michel Guy. Mais bon, puisqu'il a été largement de question du passé du séminaire, je voudrais dire que oui, je suis très reconnaissant à Jean-Pierre, justement, de m'avoir fait entrer dans la ronde. Je suis arrivé à Bordeaux en 1988 et aussitôt, par l'entremise de Michel Guy qui m'avait dit à Bordeaux, il y a Jean-Pierre Moussaron, hein, c'était catégorique, donc c'était une injonction. Par l'entremise donc de Michel Guy, j'ai rencontré Jean-Pierre, qui m'a aussitôt entretenu de son projet de mettre sur pied ce séminaire. Et c'est ainsi qu'a démarré l'aventure. Mais le premier souvenir vraiment frappant que j'ai de Jean-Pierre, c'est lorsque je suis allé chez lui. C'est une expérience évidemment que beaucoup ici ont faite. Il y avait quelque chose de saisissant, de sidérant, dans la vision de ces pièces labyrinthiques avec des murailles de livres, des murailles de DVD. Non, à l'époque, c'était plutôt des cassettes VHS. Ces murailles de disques, le laser avait commencé, de bandes dessinées. Et on prenait mesure là de l'appétit, du formidable appétit, je dirais omnidévorant, qui était celui de Jean-Pierre, qui du coup y passait d'ailleurs une partie de ses nuits, parce que tout cela nécessite beaucoup, beaucoup beaucoup de temps. Et on prend la mesure de cet appétit en lisant ces textes, hein, qui portent sur non seulement la littérature, mais la peinture, la musique, le cinéma, évidemment. Et puis alors, le deuxième souvenir, le deuxième marqueur, si vous voulez, que j'ai en mémoire, c'était la manière dont tout ça venait se combiner, s'agencer, dans sa parole, cette parole formidablement chaleureuse, hein, que vous avez entendue, la manière dont il arrivait à, dans le vif de la conversation, passer d'un morceau de jazz à un air d'opéra qui lui-même lui rappelait tel passage de Flaubert et ainsi de suite. Donc, une manière de tisser des passerelles entre les œuvres. Patrick a parlé tout à l'heure du talent de passeur de Jean-Pierre, qui savait mettre en relation les uns avec les autres. Eh bien, ce travail, il le faisait aussi avec les œuvres. Et nous l'avons entendu, en quelque sorte, à l'œuvre, dans cet extrait de la communication de 89. Alors, l'une des dernières fois... où nous sommes vus un peu longuement, c'était donc à l'occasion de ce colloque de mars de 2011 qu'il avait organisé. C'était un colloque placé sous la tutelle de l'Ardua, hein, une association que vous connaissez tous, mais connaissant les liens d'amitié anciens que Michel avait entretenu avec Michel Guy, que Jean-Pierre entretenait avec Michel Guy, la présidente de l'association avait chargé Jean-Pierre d'organiser ce colloque. Ce que Jean-Pierre avait fait avec la méticulosité, hein, qu'il apportait à ce genre de choses. Il pouvait passer beaucoup, beaucoup de temps, coup de téléphone, rédaction de courrier, pour mettre au point ce type de rencontre. Nous en avons été témoins durant les années du séminaire. Donc je tiens à dire que le montage du livre qui va sortir hein, de ce colloque lui revient entièrement. Jean-Pierre avait eu la très belle idée de demander aux intervenants de centrer chacun leur intervention sur un livre de Michel Decky. Et lui-même, donc, avait choisi, rétrospectivement, évidemment, il y a là un signe assez troublant, à ce qui n'en finit pas, le livre que Michel Decky a publié en 1997, après la disparition de sa femme Monique, à ce qui n'en finit pas, qui porte pour sous-titre « Traîne », est un chant de deuil, en quelque sorte, qui peut se lire sans ordre, puisque dans cette première édition, à la librairie du XXe siècle, aux éditions du Seuil, le livre n'est pas paginé. Ce que Jean-Pierre rappelle dans le texte de sa communication. Donc c'est un Jean-Pierre affaibli par la maladie que nous avons entendu ce jour-là, mais un Jean-Pierre fidèle à lui-même. Il a été question... ce n'était pas seulement un personnage qui pouvait être tonitruant. Il y avait une humilité, alors véritablement celle du philologue, hein, une humilité devant les textes qui le faisait s'effacer derrière des citations. Et du reste, il termine en citant précisément un passage de Blanchot dans lequel, dit-il, il reconnaît son propre programme de lecture, en quelque sorte. Hein. Voici ce que Blanchot écrit dans l'une de ses chroniques au journal des débats. Elles ont été recueillies assez récemment. Le texte date de 1944. On ne s'exprime pas soi-même par rapport à une œuvre en la définissant par rapport à soi, en la critiquant et en la jugeant du dehors, mais en essayant d'en pénétrer le sens, en l'acceptant tout entière, sans réserve et par une adhésion tout intérieure. Dans la force d'empathie de Jean-Pierre avec les auteurs, force à laquelle les étudiants ne pouvaient être que sensibles, on peut reconnaître là aussi une fraternité intellectuelle avec ce dont il est question dans le texte de Blanchot. Et donc, dans le texte de cette communication, Jean-Pierre commente, analyse le livre de Michel Decky, et je voudrais simplement prélever deux citations qu'il fait, parce que je pense que elles peuvent nous aider, hein, nous qui restons en quelque sorte, nous qui sommes en reste. Alors, il cite un extrait de l'avant-propos du recueil publié par Derrida en 2003, c'est-à-dire un an avant la mort de Derrida, « Chaque fois unique, la fin du monde ». La mort de l'autre, non seulement, mais surtout si on l'aime, n'annonce pas une absence, une disparition, la fin de telle ou telle vie, à savoir de la possibilité pour un monde toujours unique d'apparaître à tel vivant, la mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie. Et puis il y a encore cet autre extrait que je veux lire. Dieu veut dire... La mort peut mettre fin à un monde. Elle ne saurait signifier la fin du monde. Un monde peut toujours survivre à un autre. Il y a plus d'un monde possible. c'est ce que nous voudrions croire, si peu que nous croyons ou croyons croire en Dieu. Mais la mort elle-même, s'il y en a, ne laisse aucune place, pas la moindre chance, ni au remplacement, ni à la survie du seul et unique monde, du seul et unique qui fait de chaque vivant, animal, humain ou divin, un vivant, seul et unique. Alors, en relisant ces textes, et ça vaut aussi bien d'ailleurs pour Derrida que pour Jean-Pierre, je dirais pour tout animal écrivant, musiquant, peignant, eh bien, il y a au moins cela à quoi se raccrocher. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit, ce qui a fait trace. Et nous en avons eu de magnifiques exemples ce soir, en entendant la voix, alors la voix physique de Jean-Pierre à travers cette bande, ou en écoutant les extraits que Philippe a lus à l'ouverture. Alors, un dernier mot donc pour parler de ce texte. Il paraîtra dans un volume intitulé « Michel de Guy à l'œuvre, poésie et poétique ». Je viens d'envoyer le manuscrit, puisque j'étais responsable de la mise en œuvre éditoriale du projet, à l'éditeur. Le texte paraîtra dans la collection de Daniel Cohen-Lévinas aux éditions Hermann début 2014. Et j'ai tenu à ce qu'il soit dédié à la mémoire de Jean-Pierre.
Merci à tous d'être venus, d'avoir participé à cette rencontre autour de Jean-Pierre Moussaron.